Amis auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau Libre Journal, le Libre Journal d'Uxérapion en direct. Je suis très heureux de vous retrouver et vos messages seront bien évidemment toujours les bienvenus. Nous sommes assaillis d'informations et de débats, tant sur les ondes qu'à l'écran. Cette facilité d'accès à l'information et au débat est rendue possible par la multiplication des supports d'information, notamment radiophonique et télévisuel, et bien entendu Radio Courtoisie en fait également partie. Mais nous avons sans doute une écoute distraite et peu profonde de ce bruit de fond. Souvent, nous jugeons un débat en notant le positionnement politique et idéologique, vrai ou supposé des intervenants. C'est un constat qui n'est pas faux, mais qui est sans doute un constat qui passe à côté de l'essentiel. En effet, on peut exposer des points de vue divergents, et c'est le propre du débat. Mais encore faut-il que l'exposé soit rationnel et cohérent. Or, comme je le rappelle et je le déplore depuis de très nombreuses années à ce micro, la raison ou à minima la cohérence a déserté le discours. Il faut donc repartir justement du discours pour le décortiquer et pouvoir finalement porter un jugement. Un jugement non sur les idées en elles-mêmes, mais sur, encore une fois, la cohérence de ce discours. Heureusement, il existe un écrivain et philosophe qui a eu l'intelligence et la propos de réaliser ce travail. J'ai le plaisir de recevoir André Perrin. André Perrin, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à ce micro, je suis très heureux de vous recevoir. Je vous présente pour nos auditeurs, vous êtes un écrivain, vous êtes un philosophe, vous êtes agrégé de philosophie, vous avez enseigné en classe préparatoire et vous venez de faire paraître un dernier ouvrage qui s'intitule « Paradoxe de la pensée progressiste » avec un avant-propos de Jean-Claude Michéa aux éditions L'Artilleur. Alors André Perrin, peut-être quelques mots sur ce qui a, comme je le demande à chacun de mes invités, ce qui a présidé à la rédaction de cet ouvrage.
Oui, enfin, c'est-à-dire cet ouvrage, vous savez, regroupe des chroniques que j'ai, enfin pour l'essentiel, il y a quelques autres textes, mais la plupart sont des chroniques que j'ai publiées dans les deux ou trois dernières années dans la revue Commentaire. Donc ce n'est pas un ouvrage de philosophie à proprement parler, hein, ce sont des chroniques que j'ai écrites au jour le jour, hein, en fonction des réactions que je pouvais avoir à ce que je lis et à ce que j'entends quotidiennement dans les médias.
Très bien, bah, écoutez, merci de cette rapide présentation. À la vérité, j'ai pris énormément de plaisir à lire votre ouvrage. Je suis certain que les auditeurs de Radio Courtoisie prendront également beaucoup de plaisir à le lire parce que c'est à la fois intelligent et enlevé. Pour tout dire, je dois confesser que vous avez un petit peu écrit le livre que j'aurais bien aimé écrire. Parce que, d'abord en tant que, j'allais dire, auditeur ou lecteur des journaux, des radios, peut-être des télévisions, eh bien, tout ce que vous notez avec à la fois rigueur et malice, eh bien, je l'ai constaté. Et depuis que je suis assez petit, cela m'a toujours profondément agacé. Et à chaque fois que je me disais, il faudrait que j'écrive quelque chose là-dessus. Et j'avais même proposé à l'époque au fondateur de Radio Courtoisie, Jean Ferré, de faire une émission qui tout simplement nous permettrait de lire le monde en le commentant. Bon, depuis Hubert Boeuf-Méry, le monde ne sépare plus l'effet des commentaires et il n'y a pas une seule fois où je ne lise Le Monde et que je n'ai lu Le Monde depuis les 40 dernières années à peu près, parce que mon père lisait Le Monde, donc j'ai peut-être pas appris à lire avec Le Monde, mais ça faisait partie de mon univers personnel et familial. Il n'y a pas une seule fois où on n'est pas profondément choqué par quelques propos ou discours qui défie l'entendement. Et alors justement, je vais vous laisser la parole pour un petit peu disséquer ce discours, cette pensée qui, encore une fois, est tout sauf réellement construite et qui ne s'embarrasse, j'allais dire, oui, d'aucune cohérence et surtout, ce qui choque, on a l'impression que la recherche de la vérité devient quelque chose de secondaire. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, eh bien, si vous voulez, le problème, c'est que la cohérence est une exigence de la philosophie. Elle est une exigence lorsque l'on recherche la vérité, mais elle n'est pas une exigence de l'action. Hein? Vous savez, vous avez une préface que Raymond Aron avait écrite pour le livre de Max Weber qui s'intitule « Le savant et le politique ». Et dans cette préface, Raymond Aron dit à peu près ceci, « La vocation de la science est inconditionnellement la vérité, mais le métier de politicien ne tolère pas toujours qu'on la dise ». Voilà, donc lorsque l'on est dans l'ordre de l'action, on ne se préoccupe pas forcément de cohérence. Si vous voulez, lorsqu'il s'agit du débat politique, cela ne pose pas véritablement de problème. C'est-à-dire que les contradictions des hommes politiques ne me choquent pas ou ne me scandalisent pas profondément dans la mesure où elles découlent de la nature de l'action politique et où elles sont donc, en ce sens, d'une certaine manière, inévitables. Ce qui, en revanche, est un petit peu objet de scandale pour moi, c'est lorsque les intellectuels, les savants, les philosophes, les sociologues, les historiens se comportent de la même manière, hein, parce que précisément leur vocation à eux est ou devrait être la vérité et rien d'autre que la vérité. Or le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, la double casquette de savant et de militant est quelque chose qui est ouvertement revendiqué par un certain nombre de philosophes, de sociologues, d'économistes, d'historiens, dont l'ancêtre lointain est en quelque sorte Karl Marx. Le Karl Marx, vous savez, de la fin de la première partie de l'idéologie allemande, la fameuse 11e thèse sur Feuerbach, où il dit « les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe aujourd'hui, c'est de le transformer ». Et puis, ils ont un ancêtre un peu plus récent, qui est le sociologue Pierre Bourdieu, hein, dans la mesure où Bourdieu a raconté lui-même que son travail, la logique, dit-il, de son travail, l'avait amené à un certain moment à renoncer à une certaine idée de l'objectivité qu'il s'était d'abord imposé et qui lui était apparu, dit-il, comme une forme de censure, et à découvrir à partir de là que la sociologie était une science éminemment politique. Alors le problème est là, si vous voulez, dans cette confusion du savant et du politique. Et les disciples de Bourdieu se sont engouffrés dans cette voie. Je songe en particulier une déclaration tout à fait significative, c'était dans une interview au journal Libération, ça remonte déjà à 1998, et l'un des plus proches collaborateurs de Bourdieu, le sociologue Patrick Champagne, déclarait ceci, regardez, disait-il, la réussite intellectuelle, la réussite actuelle de Charlie Hebdo. Nous sommes dans le même état d'esprit. Être là, dire ce que l'on pense, refuser le consensus, jouer les emmerdeurs, et ajoutait-il juste après, et nous gardons une approche la plus scientifique possible. Alors, voilà constitué la figure postmoderne du scientifique emmerdeur. Et alors, vous avez un épigone plus récent de Bourdieu, très en vogue, hein, Monsieur Geoffroy de Laganerie, qui, lui, déplore que certains sociologues fassent un usage dépolitisant de leur pratique et de leur savoir. Hein, et il dit ceci, il pose la question, comment peut-on à ce point désamorcer la portée critique de la sociologie. Et alors, par exemple aussi, à propos de la fameuse querelle sur la question de savoir, vous vous souvenez, si expliquer, ça n'est pas un peu excuser, il dit ceci, je pense qu'il faut récupérer le mot d'excuse. On cède trop facilement aux offensives de la pensée réactionnaire ou conservatrice. Excuser, c'est un beau programme de gauche. Alors voilà. La messe est dite, si vous voulez, la sociologie est un sport de combat, la critique sociale, c'est-à-dire la contestation de l'ordre établi, est consubstantielle à la sociologie. La sociologie est une science de gauche qui réalise sa vocation en combattant la pensée réactionnaire ou la pensée de droite. Et donc, l'essentiel, à partir de ce moment-là, la tâche de l'intellectuel, du véritable intellectuel de gauche, ça n'est plus essentiellement de rechercher le vrai, hein, mais c'est de mener conjointement un assaut théorique contre l'ordre bourgeois de la société capitaliste et puis une activité militante pratique. Alors, pour Bourdieu, c'était en 95 le plan Juppé, plus tard il y a eu Nuit debout, la réforme du code de travail, la réforme des retraites, etc. Alors évidemment, à partir du moment où l'intellectuel s'aligne sur les principes de l'action qui sont ceux de l'homme politique, eh bien, vous comprenez que la cohérence ne peut plus être quelque chose qui est essentiel à ses yeux.
André Perrin, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Je le dis pour nos auditeurs, nous pourrions passer toute l'émission rien qu'à décortiquer ce que vous avez dit. Et je vais quand même me permettre d'y revenir parce que ce que vous avez dit est extrêmement dense, extrêmement riche et il faut y revenir. Bon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la pensée de ces gens-là, ce n'est pas uniquement la volonté d'arraisonner, j'allais dire, la science à leurs idées, c'est la négation de toute vérité et objectivité. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est fondamental, parce que à partir du moment où on dit soi-même que l'on refuse l'objectivité, ce n'est qu'un cache-sexe pour dire que l'on refuse la vérité. Parce que soit il y a des faits et des choses objectives, soit il n'y en a pas. Et là, je m'adresse aux philosophes. Et donc, ce refus de la vérité, il a, je pense, un ancrage extrêmement profond et d'une certaine façon, ça arrive à une des questions que vous ne vouliez pas forcément que l'on aborde, mais c'est la question du marxisme et donc du totalitarisme. Parce que derrière ce discours, il y a toujours revisité, à mon avis, eh bien, un discours marxiste. En quoi consiste le discours marxiste ? Eh bien, c'est le matérialisme historique. Et en fait, qu'est-ce que le matérialisme historique en un mot ? C'est la prétention de Marx et de ses disciples à donner une explication globale, totale et satisfaisante du passé, du présent et de l'avenir. Et dans cette explication globale, la vérité, la morale, etc., n'existent qu'en tant que superstructure. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de réalité propre. C'est l'économie et les rapports de production qui définissent tout. Et donc, quand on est marxiste, on peut très bien favoriser la cellule familiale si on pense que c'est bien, notamment dans les sociétés où ils ont pris le pouvoir, mais dans les sociétés qu'on veut détruire, eh bien, on souhaite la détruire. On peut donc être favorable à la pédophilie lorsqu'on pense que politiquement, c'est un gain pour arriver à ses fins, ou on peut être contre. Et d'ailleurs, je pense aujourd'hui, si je puis me permettre, qu'il y a une sorte d'incompréhension absolue sur le discours, par exemple, d'un Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, on peut lui offrir au moins ce crédit, c'est quelqu'un d'intelligent, de cultivé, c'est un marxiste. Donc quand on lui fait, quand on donne l'accusation, quand on porte l'accusation auprès de Jean-Luc Mélenchon en disant « vous êtes un antisémite », Jean-Luc Mélenchon ne peut pas la comprendre. Pourquoi ? Parce que pour lui, il n'est pas antisémite. Il a été philosémite quand il pensait, à tort ou à raison, que l'ensemble des juifs et de la communauté juive étaient plutôt à gauche et servaient son projet politique. Et il est devenu anti-juif lorsqu'il a pensé qu'il y avait un autre peuple qui, eux, n'aimaient peut-être pas les Juifs et qu'en plus, les Juifs s'étaient un peu éloignés de ses idéaux à lui. Il n'y a pas de morale chez ces gens-là. Il n'y a pas d'objectivité du discours. Et donc, je pense que nous abordons ces personnes sans comprendre leur matrice intellectuelle. Et moi, ce qui me frappe, c'est que on va évidemment développer tout au cours de l'émission, j'allais dire, ce qu'on appelle les paradoxes de la pensée progressiste. C'est le titre de votre ouvrage. Mais en réalité, ce sont, à mon avis, de nouveaux avatars de cette pensée marxiste que n'ont finalement abandonné aucun des personnes que vous avez citées. Et quand vous citez, par exemple, Laganerie, et je suis désolé, il faut dire la vérité, c'est un fou furieux. C'est quelqu'un qui pense que Pierre Manan, par exemple, ne peut pas s'exprimer car ses idées sont nauséabondes. Enfin, c'est surréaliste. Ou Marcel Gauchet, qui, comme son nom l'indique, n'est pas quelqu'un de droite. Hein. Il faut avoir lu ses ouvrages. Bon, je vous laisse la parole, André Perrin.
Et alors, là, je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même plan ce dont je parlais, hein, c'est-à-dire des intellectuels, des historiens, des philosophes, et Jean-Luc Mélenchon. Précisément, j'avais commencé par...
Oui, faire la distinction.
Avec Raymond Aron, entre le cas des intellectuels et ceux des politiques. Bon, alors, donc, si vous voulez... Je n'irai pas aussi loin que vous en disant que les intellectuels dont je parlais ont totalement renoncé à l'idée d'objectivité ou qu'ils la contestent elles-mêmes. C'est pas ça le problème. Ce dont ils sont convaincus, et sans doute sincèrement pour certains d'entre eux, c'est que l'objectivité se confond avec ce qui est l'objet de leur lutte militante. Bon. Voilà, alors ça c'est un point. Le deuxième point, alors bien sûr, sur les postures successives de Jean-Luc Mélenchon, qui est passé effectivement d'un laïcisme, hein, qu'on aurait pu jadis même, que certains auraient pu qualifier de laïcard, à ses positions actuelles, hein, parce qu'il y a en même temps, il y a une évolution effectivement, en même temps vis-à-vis de son attitude à l'égard des musulmans et des juifs, bon, bien sûr, mais ça, c'est le type même de contradiction dont je disais précisément, en citant Raymond Aron, qu'elles étaient, sinon normales, sinon acceptables, je ne s'agit pas de les justifier, mais de constater que la conjoncture, le changement de conjoncture a pour effet que certains politiques, bien que les politiques sont très souvent amenés à se contredire parce qu'ils se heurtent à la réalité. Voilà. Bon, alors, dernier point, si vous voulez, vous rapportez tout cela au marxisme. Non, moi j'avais cité simplement la 11e thèse sur Feuerbach pour illustrer, si vous voulez, la tendance d'un certain nombre d'intellectuels à se faire militant et à confondre leur travail d'intellectuel et de militant, à devenir ce que Nathalie Hennick a très bien nommé des académo-militants, hein, et des gens qui vont s'autoriser de leur terre, de leurs compétences scientifiques, pour défendre dans l'espace public, qui n'est plus le simple espace universitaire, hein, mais dans l'espace public en général, dans les médias, des positions qui ne peuvent pas être rigoureusement déduites de la science. Voilà. Mais voilà. Pour le reste, si vous voulez, je ne pense pas que l'on puisse imputer à la pensée marxiste tous les vices que vous lui imputez, enfin jusqu'à la pédophilie, si vous voulez. Non. Et par ailleurs, s'il s'agissait de Marx, enfin, je pense que aujourd'hui, quand on voit cette réhabilitation du religieux qui est en œuvre à la France insoumise, évidemment, parce qu'il s'agit de réhabiliter non pas la religion en général, mais une certaine religion qui est perçue par eux comme celle des opprimés, et que ces opprimés religieux sont pour eux une clientèle électorale. Bon, j'avoue que on est quand même très très loin de Marx.
Écoutez, je maintiens mon analyse, si vous me le permettez. J'aimerais revenir sur la distinction que fait Raymond Aron entre le savant et le politique. Je pense qu'il ne faut pas confondre un constat une posture avec une réalité profonde, une sorte d'éthos. Je pense qu'il est un petit peu dangereux et en tout cas dommage, attristant, d'imaginer que on puisse accepter que le politique soit dans une perpétuelle contradiction, que l'homme politique puisse s'adapter aux circonstances, au temps et aux circonstances, bien évidemment, c'est la marque même du politique. Mais ça ne peut pas se faire au prix d'un reniement absolu de ce qu'il pense, ou alors je pense qu'il perd toute crédibilité. Donc je ne vois pas de véritable distinction d'essence entre la fonction du politique et la fonction du savant, au moins dans les buts poursuivis. Qu'ensuite ceux-ci s'expriment de façon différente, c'est bien évident, et on ne va pas avoir la même exigence, évidemment, d'éthique peut-être vis-à-vis du savant que du politique, mais justement, un grand politique, c'est quand même quelqu'un qui, malgré le temps et les circonstances, reste fidèle à ce qu'il croit être la vérité. Et ça, je pense que c'est important. Et je crois que le désenchantement, pour reprendre un terme, qui a fait florès durant ces dernières décennies, le désenchantement de la politique vient aussi d'une perception que ce que dit Raymond Aron eh bien, touche pas uniquement la tactique, mais également l'absence de conviction de nos hommes politiques, et on peut le déplorer. J'aimerais juste... Allez-y, je vous en prie.
Oui, alors je précise quand même ce que j'ai voulu dire et ce qu'a dit Raymond Aron. Hein, je n'avais pas le texte sous les yeux, donc je ne l'ai pas cité exactement, mais je le connais quand même à peu près par cœur. Il dit le politicien ne peut pas toujours dire la vérité. Bon, donc il n'a évidemment pas dit que les politiques passaient leur temps à mentir et mentaient tout le temps. Hein, il dit simplement, voilà. Du coup, quand on est du côté de la science, là, c'est parfaitement clair, on cherche la vérité et rien d'autre que la vérité, et de manière inconditionnelle. Quand on est politique, on peut bien sûr avoir le goût de la vérité et s'efforcer de la respecter autant qu'il est possible. On se trouve néanmoins souvent dans des conditions où il n'est pas possible. Il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire ou qui sont dangereuses de dire et que l'on va plus ou moins dissimuler. Mais bien sûr, ça ne signifie pas que tous les politiques soient égaux par rapport à ça. Il y en a qui sont plus ou moins opportunistes, plus ou moins cyniques, et bien évidemment, je ne mets pas sur le même plan De Gaulle ou Pierre Mendès-France, par exemple, et puis Jean-Luc Mélenchon ou tels autres, enfin, qu'il n'est pas nécessaire de nommer. Voilà.
Mais justement, c'est vraiment très important, et pour le dire aux auditeurs, c'est le cœur de votre ouvrage. Encore une fois, vous reprochez à des gens qui ont fait profession de penser d'avoir abdiqué justement cette exigence. Et c'est là tout le cœur de votre ouvrage, et encore une fois, c'est ça qui est vraiment passionnant à vous lire. Et en plus, évidemment, ça devient assez naturellement drôle, parce que quand le discours s'empêtre, parfois il sort des choses quand même qui ne peuvent que faire sourire. Alors, commençons peut-être justement par ce qui débute un petit peu votre ouvrage et qui, je pense, est quand même une sorte de point très important. C'est, voilà, c'est la notion de concept, c'est la notion d'archétype, et on voit là combien ceux qui font profession de parler et de penser, notamment sur les radios d'État, parce que il semblerait quand même que vous ayez remarqué cela plus particulièrement sur certains médias. Bon, nous laisserons le lecteur découvrir, le suspense est intolérable, j'en ai conscience. Mais et alors justement, essayez de nous expliquer un petit peu ces paradoxes que vous avez constatés dans le discours et qui sont en effet flagrants. Et encore une fois, comme je le disais en introduction, qu'on a besoin qu'on nous décortique intellectuellement pour qu'on se dise, quand on est l'homme de la rue, hein, bon, nous c'est un peu différent, nous faisons un peu profession de vous de penser, moi de parler, mais décortiquez-nous un petit peu ce que vous avez entendu, parce que c'est vraiment passionnant d'un point de vue intellectuel.
Alors, attendez, vous parlez des concepts. C'était, on fait allusion, si je comprends bien, au début de mon livre, où il est question du wokisme. Hein, parce que bon, ce dont je parle s'inscrit, si vous voulez, dans une sorte de, hein, dans une guerre des mots qui remonte déjà à un certain nombre d'années, d'ailleurs. Et d'une guerre des mots qui s'inscrit dans une stratégie d'intimidation destinée à empêcher le débat. Alors, ce à quoi je faisais allusion, en effet, C'est le fait que vous souvenez de la querelle qu'il y a eu à propos de l'université, à propos d'un certain nombre d'universitaires qui ont dénoncé, enfin, qui se sont inquiétés hein, du progrès, de la montée à la fois de ce qu'on a appelé l'islamo-gauchisme et de ce qu'on appelle le wokisme dans l'université. Et alors, on leur a opposé aussitôt que ces concepts hein, d'islamo-gauchisme ou de wokisme n'étaient pas des concepts scientifiques, ce n'étaient pas des concepts vraiment définis, que c'était des notions fumeuses et purement polémiques. Hein. Alors, par exemple, vous avez un sociologue assez bien en cours, hein, présent dans les médias, Éric Fassin, qui nous dit qu'il n'y a pas de définition cohérente du wokisme. Alors, ce que j'ai fait remarquer, ce qui est assez amusant, c'est que ceux qui disent cela, généralement, n'ont pas du tout la même exigence à l'égard des concepts dont eux-mêmes font usage. Et en particulier, Éric Fassin, juste après justement ce passage où il nous dit qu'il n'y a pas de définition cohérente du wokisme, il se réclame de la gauche à laquelle il appartient, et puis il dit ceci, « La gauche n'a pas une signification qui serait déjà donnée, c'est un mot qu'il faut investir de sens dans des combats politiques ». Alors, ça, c'est quand même remarquable, parce que tout ce qu'il nous dit, c'est que ben, la gauche, ça a un sens qui est indéterminé, hein, que ce sens n'est pas fixé une fois pour toutes, donc que ça n'est pas un concept, mais précisément une notion floue et vague, et plus encore que c'est un mot qu'il faut investir de sens dans des combats politiques. Autrement dit, ce sont les combats politiques à venir qui vont lui donner son sens. Comment dire mieux que le concept de gauche est un concept de combat, hein. Concept de combat, c'est un terme d'ailleurs qu'utilisait Bourdieu, hein. Un concept de combat, c'est-à-dire un concept polémique. Hein. Voilà, et puis, ou alors un peu plus loin, il nous dit par exemple, être de gauche, c'est œuvrer politiquement pour l'égalité. Bon, alors là aussi, ce concept d'égalité, est-ce que véritablement c'est un concept qui est défini de manière précise et rigoureuse. Le concept d'égalité, c'est un concept qui est emprunté aux mathématiques. Et il a en mathématiques une définition parfaitement claire et assignable. Deux quantités égales entre elles sont égales à une troisième. Ça, c'est incontestable. Mais à partir du moment où on applique ce concept à des réalités qui ne sont pas des quantités qui ne sont pas mesurables, qui ne sont pas des grandeurs. Lorsqu'on parle d'égalité entre des personnes, qu'est-ce que cela veut dire? Alors évidemment, est-ce qu'on peut dire que le savant est égal à l'ignorant, que l'honnête homme est égal au délinquant? Bon, si vous voulez, la notion d'égalité, dès lors qu'on l'arrache à son socle originel, hein, d'ordre quantitatif, devient une notion dont on fait un usage métaphorique. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, hein, qu'il ne faut pas l'utiliser. À vrai dire, on ne peut pas ne pas l'utiliser. Mais il faut l'utiliser avec précaution, en précisant, etc. Et il faut surtout, à partir du moment où on fait cela, ne pas reprocher aux autres hein, d'utiliser des concepts qui ne sont pas, qui ne sont ni plus ni moins bien définis que ceux qu'on utilise soi-même, parce qu'il faut bien trouver des mots pour parler. Bon, je pense à propos de l'islamo-gauchisme, par exemple. Vous avez, lorsqu'il y a eu cette querelle, hein, la conférence des présidents d'université hein, a publié un texte disant que ça n'est pas un concept, que c'est une pseudo-notion, qui n'a aucune définition scientifique hein, et qu'il faut abandonner à l'extrême droite, etc. Bon, or, il se trouve que ce concept d'islamo-gauchisme, au contraire, a été très précisément élaboré et au CNRS, précisément, par un directeur de recherche au CNRS, Pierre-André Taguieff, hein, qui a fait de très très nombreux travaux très connus sur ces questions. Alors, voilà, si vous voulez, d'une part, on nous dit que le concept d'islamo-gauchisme hein, n'est pas un concept scientifique, mais on ne se pose pas la question lorsqu'on utilise le concept d'islamophobie, hein, ou celui, alors ceux de droite et de gauche, hein, ceux de d'ultra-libéralisme, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que dans mon livre, bon, j'ai fait une analyse avec un concept qui est constamment utilisé. Alors, si vous lisez Le Monde, si vous lisez Libération, si vous écoutez la radio publique, comme je le fais tous les jours, il ne se passe pas une journée sans qu'il soit question de l'extrême droite. Bon. Est-ce que le concept d'extrême droite est réellement un concept vraiment défini et pas une pseudo-notion ? Est-ce que c'est un concept scientifique ? Est-ce que, à tout le moins, c'est une idée claire ou distincte, hein, au sens où Descartes l'a définie dans les principes de la philosophie ? Bon. Qu'est-ce que ça veut dire être d'extrême droite ? Alors, j'ai formulé deux hypothèses. Je me suis dit, mais être d'extrême droite, est-ce que ça veut dire être extrêmement de droite ? Ou est-ce que ça veut dire appartenir à une droite qui a recours à des moyens extrêmes ? Bon, déjà, le mot ne nous le dit pas. Alors, prenons la première hypothèse. Si être d'extrême droite, c'est d'être extrêmement de droite. Bon, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'être de droite. Apparemment, on s'accorde à considérer que ce qui est de droite, c'est le libéralisme. On oppose couramment...
Ah, économique en tout cas, pas le libéralisme sociétal, le libéralisme économique.
Alors, le libéralisme, oui, le libéralisme économique, le libéralisme sociétal aussi.
Il est à la fois à gauche et à droite. Hein.
Oui, il est à la fois à gauche et à droite, mais figurez-vous que le libéralisme économique, dans les faits aussi.
Oui, vous avez raison, c'est vrai.
Il faut bien distinguer ce qui se passe dans l'ordre du discours et ce qui se passe dans la réalité. Bon, toujours est-il que là, on parle de la définition et donc des idées et donc de l'idéologie. Donc, si être de droite, c'est être libéral, être d'extrême droite, ce serait être extrêmement libéral, voire ultra-libéral. Bon, alors, dans ces conditions, j'ai fait remarquer qu'il était quand même difficile de situer Mussolini ou Hitler à l'extrême droite. Parce que quand même, est-ce que l'ultra-libéralisme réclame davantage d'État ou moins d'État? Je rappelle le discours de Mussolini le 26 mai 1927 à la Chambre des députés, hein, où vous avez cette formule que tout le monde connaît, tout dans l'État, rien contre l'État, rien hors de l'État.
En dehors de l'État, oui.
Voilà. Bon. Et ça dépasse simplement, si vous voulez, dans les mots. Hein. Quelques mois plus tard, Mussolini a une politique qui n'est pas libérale du tout, il fixe le taux de change de la lire à un niveau très élevé. Bon. Et s'il est vrai qu'à son arrivée au pouvoir, il s'était efforcé de rassurer les milieux économiques qui étaient inquiets du programme de 1919. Je ne sais pas si vous vous souvenez du programme de Mussolini en 1919. Hein, Mussolini était à l'époque avait été un des principaux chefs du Parti socialiste. Il avait lu Lénine, il avait rencontré des bolcheviques et le programme de 1919, c'est un programme qui est véritablement révolutionnaire. Hein, ce qui est préconisé, alors il y a des mesures que nous trouverions de gauche aujourd'hui, droit de vote à 18 ans, droit de vote pour les femmes, etc. Mais il y a aussi une politique...
Quelle horreur le fascisme!
Une politique d'expropriation, hein, une imposition massive du capital allant, nous dit le texte hein, du programme de 1919, jusqu'à l'expropriation. Bon, voilà. Alors, effectivement, Mussolini s'était efforcé hein, au début de son arrivée au pouvoir de rassurer les milieux économiques. Bon, mais dès 1926, il a mené une politique qui était tout à fait une politique protectionniste, dirigiste et interventionniste. Bon, et en Allemagne, même chose. Si vous regardez le programme du Parti national-socialiste de 1920, hein, le fameux programme en 25 points, bah écoutez, il n'y avait pas de quoi faire frémir d'aise hein, les représentants du grand capital. Bon, et là aussi, ça n'a pas été simplement dans les paroles, puisque si l'on regarde ce qu'a été la politique d'Hitler à partir de 1933, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, eh bien, c'était une politique de relance de la dépense publique, d'augmentation considérable de la dette. Il a généralisé les congés payés. Hein, donc, les Allemands les ont eus avec Hitler 3 ans avant les Français et le Front populaire. et il a relevé le taux d'imposition des entreprises de 20 à 40% hein, en l'espace de 6 ans. Hein, et avec une politique qui a consisté, comme l'a montré l'historien allemand Götz Ali, à écraser d'impôts les riches pour en exempter les classes moyennes et les classes populaires. Alors, on ne peut pas qualifier cette politique, si vous voulez, d'ultra-libérale, me semble-t-il. Et alors, deuxième possibilité, est-ce que c'est l'extrémisme dans le choix des moyens? Alors ça a été effectivement vrai de l'extrême droite il y a un siècle. Hein, les mouvements d'extrême droite, les ligues, effectivement, se caractérisaient par leur antiparlementarisme, par leur antisémitisme et par le recours à la violence dans la rue. Bon, ça c'est tout à fait exact, mais aujourd'hui, aucun de ces caractères ne s'applique au parti qui est considéré, qui est désigné comme le parti d'extrême droite aujourd'hui, à savoir le Rassemblement national. Bon, même si quelques nostalgiques du fascisme et quelques anciens de la collaboration ont participé en 72 à la fondation du Front National.
Et des résistants aussi hein, ont participé à la création du Front National. Donc, à un moment.
Mais par ailleurs, les quelques anciens collaborateurs sont très vite partis. Ils ont fondé, si je me souviens, le PFN, hein, le Parti des Forces Nouvelles, précisément parce qu'ils étaient opposés à la ligne légaliste qui avait été, dès sa fondation, imposée par Jean-Marie Le Pen, hein, et qui privilégiait les formes conventionnelles de la lutte politique et les batailles électorales. Bon, et c'est d'ailleurs ce que dira Lionel Jospin, hein, qui vient de disparaître, hein, Lionel Jospin qui était, me semble-t-il, peu suspect de sympathie à l'endroit du Front National. Hein, Jospin disait ceci: pendant toutes les années du mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste, et donc tout antifascisme n'était que du théâtre. Nous avons été face à un parti, poursuit Lionel Jospin, le Front National, qui était un parti d'extrême droite, un parti populiste aussi à sa façon, mais nous n'avons jamais été dans une situation de menace fasciste, et même pas face à un parti fasciste. Donc, si vous voulez, voilà, le concept d'extrême droite, par là, il est appliqué à des partis, à des mouvements qui ont des politiques totalement différentes et même tout à fait opposées. Et alors, ce que je remarque aussi, c'est que, à propos justement du légalisme, du parlementarisme, c'est que la mise en cause de la légitimité hein, de l'institution parlementaire, ben, moi je la trouve assez curieusement dans le bord opposé. Par exemple, hein, je cite dans mon livre une magistrate hein, très éloignée de l'extrême droite, elle intervient régulièrement dans l'émission L'Esprit public, hein, et bien dans une tribune publiée par le journal Le Monde, elle conteste la légitimité de la démocratie électorale au motif qu'il y a, je la cite, un déphasage sociologique des parlementaires qui fait d'eux un miroir inversé du reste de la société. Bon, tout le monde aura reconnu hein, un vieux thème de Charles Maurras, hein, celui de l'opposition entre le pays légal et le pays réel. Bon, de même, je ne vois pas dans le parti qui est désigné comme d'extrême droite, bon, dont on peut tout à fait contester les thèses et les positions, bien évidemment, mais je ne vois pas non plus qu'il y ait des appels à l'insurrection ou à la violence politique. Et en revanche, vous parliez de Mélenchon, ben oui, c'est Mélenchon qui, dans plusieurs tweets, appelle à l'insurrection. Alors bon, l'insurrection citoyenne, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, quand il dit, en citant un épisode de la Révolution, hein, où on va chercher aux Tuileries le roi, la reine, etc., et qu'il dit « faites mieux », bon, c'est quand même un petit peu gênant. Et c'est lui aussi qui, lorsqu'il y a des émeutes de banlieue, refuse, non seulement refuse d'appeler au calme, mais qui traite de chien de garde les gens de gauche qui le font, qui appellent au calme. Et c'est un de ses alliés hein, au sein du Nouveau Front Populaire, hein, Philippe Poutou, hein, qui lui, au contraire, va justifier ses émeutes hein, en les qualifiant de révolte légitime. Hein, ou qui, le même Philippe Poutou, hein, lorsque en 2024, vous avez un commissariat qui est à la Courneuve, hein, qui est attaqué au mortier, hein, qui s'en réjouit en disant « un joli feu d'artifice bon. ». Ce ne sont pas non plus des parlementaires d'extrême droite, hein, qui violent ouvertement les lois de la République, hein, en participant, sein de leur écharpe tricolore, à des manifestations interdites, hein, et à des manifestations comme à Sainte-Soline ou ailleurs, où vous avez des dizaines et des dizaines de gendarmes qui sont blessés. Hein, bon, tout cela, si vous voulez, ce n'est pas le fait de l'extrême droite. Et alors, même chose pour... Puisque vous faisiez allusion à l'antisémitisme, eh bien oui, ça c'est un fait. Hein. Vous savez qu'une récente décision de justice, vous savez que c'était le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, qui avait porté plainte contre Raphaël Antoven, parce que Raphaël Antoven avait qualifié LFI de mouvement profondément antisémite. LFI a porté plainte et le tribunal l'a débouté, hein, c'est-à-dire que le tribunal a reconnu qu'il n'y avait rien de diffamatoire à dire que LFI était un mouvement profondément antisémite. Bon. Donc effectivement, l'antisémitisme aujourd'hui, bon certes, on peut toujours citer, et c'est tout à fait déplorable, hein, des telles ou telles petites phrases de tel ou tel membre du Front National, bon, qui sont effectivement des saillies antisémites qui évoquent le souvenir de Jean-Marie Le Pen, hein, mais force est de constater que c'est même beaucoup plus massivement visible aujourd'hui à l'extrême gauche. Et d'ailleurs, je remarque que Jean-Luc Mélenchon lui-même n'a même pas eu besoin, hein, de l'alibi de l'antisionisme pour déclarer. Hein, je ne sais pas si Jésus était sur la croix, je sais qui l'y a mis, paraît-il, ce sont ses propres compatriotes.
Oui, ça c'est un fait, mais il n'est pas croyant, donc il voulait simplement renvoyer les Juifs à leur responsabilité. C'est un propos d'un anticlérical.
Oui, non, mais attendez, c'est un anticlérical, je veux bien, mais il fait allusion à quoi ? Il fait allusion à la vieille thèse du peuple déicide, hein, c'est-à-dire à quelque chose qui a permis justement de dénoncer l'antisémitisme chez les chrétiens, hein, et donc ce qu'il reprend, c'est pas, vous dites anticlérical, il reprend précisément un propos de chrétien intégriste d'autrefois. Plus aucun aujourd'hui, je pense, ne dirait cela.
Hein, oui et non. Enfin, encore une fois, ce n'est pas polémique de dire que les Juifs ont crucifié, enfin plus exactement, le Séandrin et une partie d'ailleurs du Séandrin, parce que tous n'étaient pas favorables à la condamnation de Jésus, mais c'est quand même eux qui ont crucifié Jésus. La thèse catholique n'est pas du tout celle du peuple déicide, ça n'a jamais été après qu'il y ait eu des chrétiens qui aient pu le penser, la thèse chrétienne officielle, ça nous éloigne un petit peu de notre sujet, la thèse chrétienne officielle, c'est que Jésus a été historiquement crucifié par ses compatriotes, ça Jean-Luc Mélenchon a raison, mais spirituellement, il a été crucifié par l'ensemble des péchés de l'humanité qu'il a racheté une fois pour toutes. C'est ça la thèse pour les croyants. Et c'est là aussi où je pense qu'il y a une incompréhension, et je l'ai dit, mais on ne va pas y revenir, sur ce que dit et ne dit pas Jean-Luc Mélenchon. Et encore une fois, il ne s'agit pas de reprocher à Jean-Luc Mélenchon s'il est ou pas antisémite, puisque pour lui, c'est un moyen et non une fin. Mais sa fin à lui... C'est l'insurrection, c'est la volonté de prendre le pouvoir. Vous vous étonnez qu'il y ait une magistrate plutôt de gauche qui appelle à ne pas respecter l'élection. Mais c'est la matrice communiste. L'élection n'est que la superstructure du pouvoir bourgeois qui doit être renversée par la violence. Et l'ensemble de tout ce que l'on voit aujourd'hui se développer, notamment le wokisme, etc., pour moi, est issu de cette matrice. Mais plus intéressant, André Perrin, j'aimerais revenir au cœur de votre ouvrage. Ce que vous montrez, c'est que, encore une fois, là nous avons discouru sur la légitimité ou non de telle ou telle position politique. Or, justement, tout l'intérêt de votre ouvrage, c'est d'écarter la question du jugement politique pour aller sur le terrain du philosophe que vous êtes. Et notamment sur le wokisme, vous dites quelque chose absolument de passionnant, texte et extrait à l'appui, vous dites bah, « ceux qui disent que les études de genre et le wokisme n'existent pas ou est totalement minoritaire contrevient totalement à ce que disent l'ensemble des chercheurs qui se disent wokistes et qui se disent favorables aux études de genre en disant que c'est quelque chose qui est aujourd'hui majeur et incontournable. » Et on voit bien comment aujourd'hui ces gens sont partagés entre l'idée de dire que quelque chose existe pour le légitimer et en même temps dire que cela n'existe pas pour éviter que leur thèse soit sinon combattue, en tout cas discutée. C'est ça, moi, que je trouve fascinant. Est-ce que vous avez magnifiquement mis en lumière ?
Alors, sur la question de la théorie du genre, effectivement, vous savez, cette question, elle remonte à l'époque où il a été question d'introduire un enseignement sur ce thème à l'école. Donc ça a été contesté par certains, bon parfois d'ailleurs avec de mauvais arguments, mais peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est que on leur a opposé immédiatement une sorte de tir de barrage dont le maître mot, hein, le maître argument, était « la théorie du genre n'existe pas ». Et alors c'est devenu un véritable mantra, hein, destiné à couper l'herbe sous le pied de l'adversaire. Hein. Donc, parce que s'il n'y a pas de théorie du genre, si c'est un simple fantasme, eh bien la question de son enseignement à l'école ne se pose pas et n'a pas à être discutée. Et alors, ce qui accompagnait généralement cette formule, c'était ceci: la théorie du genre n'existe pas, mais ce qui existe, ce sont des études de genre, hein, les gender studies, hein, ou bien c'est un concept de genre. Bon, le problème, c'est que la notion d'étude de genre, hein, gender theory, est tout à fait attestée dans le monde anglo-saxon. Il y a même alors quelqu'un qui avait été jusqu'à soutenir, pour répondre à cette objection, que le mot anglais theory ne devait pas être traduit par théorie en français. Bon. Alors, l'auteur de cette trouvaille se livre à de laborieuses explications, hein, et puis finalement, il finit quand même en posant une bonne question. Oui, mais alors, si la théorie du genre n'existe pas, comment va-t-on traduire gender theory ? C'est là un vrai problème, nous dit-il. Et il répond qu'il faut traduire par étude de genre. Mais évidemment, il ne se pose pas la question de savoir comment, dans ces conditions, on va traduire gender theory. Tu dis, bon, voilà. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de théorie du genre, il y a seulement, nous dit-on, des études de genre et qui font l'objet d'un enseignement, hein, dans de nombreuses universités anglo-saxonnes. Bon, alors là, la question que j'ai posée est toute simple, si vous voulez, hein, parce que bon, on fait de la philosophie un petit peu et, hein, pour la formule, il n'est pas philosophe celui qui n'a pas réfléchi sur le langage. Alors, comment des études peuvent-elles être enseignées ? Bon, ce que veut dire étudier ? Qu'est-ce que c'est qu'un étudiant ? Un étudiant, ben, c'est quelqu'un qui cherche à acquérir un savoir qu'il ne possède pas encore. Et on le distingue d'un enseignant qui, lui, ayant acquis ce savoir, est susceptible de le transmettre à l'étudiant. Donc, si par étude, on entend une recherche qui n'a pas encore abouti, on ne voit pas comment cette recherche n'ayant pas abouti à un savoir, pourrait être enseignée. Et inversement, si elle a abouti, si elle a été validée scientifiquement selon un protocole expérimental et selon les méthodes de validation, hein, de la science dont il s'agit, à ce moment-là, elle devient une théorie scientifique. Bon. Même chose si on nous dit ce qui s'enseigne, ce n'est pas là une théorie du genre, c'est le concept de genre. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire enseigner un concept ? Quels sont les concepts que l'on peut enseigner ? On distingue deux sortes de concepts. Il y a des concepts empiriques, il y a des concepts scientifiques. Bon, le concept empirique, si vous voulez, ben c'est des concepts que nous formons depuis l'enfance, hein, en regroupant les caractères communs, hein, à des objets, à une table, les chats, etc., en voyant ce que toutes les tables, tous les chats ont en commun. Bon, ça c'est un simple concept empirique, mais ce n'est pas quelque chose, bien sûr, que l'on va enseigner à l'université. Si ce qui s'enseigne, bien sûr, ce sont des concepts scientifiques, mais qu'est-ce qui distingue le concept empirique du concept scientifique? Ben ça, c'est tout simplement que un concept scientifique, c'est un concept qui s'inscrit dans une théorie, hein, et d'ailleurs dans des théories qui sont elles-mêmes évolutives. Hein. On a un concept scientifique, on a un concept empirique, par exemple de la gravitation, hein, quand on voit une pomme, hein, qui tombe du pommier. Bon, mais ça n'est pas un concept scientifique. Il y aura un concept scientifique de la gravitation à partir du moment où ça va être pensé par Newton à l'intérieur de la théorie de l'attraction universelle. Et à ce moment-là, le concept de gravitation, ça devient le concept d'une force. Bon. Et puis ensuite, eh bien, la science progresse et avec la théorie de la relativité, hein, eh bien, le concept de gravitation cesse d'être une force, hein, il devient, chez Einstein, un effet de la déformation de l'espace-temps. Bon, donc vous avez une histoire, une évolution des concepts scientifiques, mais ce qui forme le concept scientifique et ce qui le transforme et ce qui le fait évoluer et progresser, c'est toujours son inscription dans une théorie, hein. Donc, prétendre qu'il y a un concept du genre mais pas de théorie du genre, eh bien, c'est précisément renoncer à considérer qu'il peut y avoir quoi que ce soit de scientifique dans ce que l'on enseigne.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. J'ai le plaisir de recevoir André Perrin, Paradoxe de la pensée progressiste. C'est son dernier ouvrage, préfacé par Jean-Claude Michéa aux éditions L'Artilleur. Et je crois que nous avons un bobino important pour la vie de notre radio.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors André Perrin, vous avez mis en lumière évidemment ces contradictions, vous les appelez paradoxes parce que vous êtes gentil. Je crois d'ailleurs qu'il faudrait que, enfin, on aurait pu faire de votre ouvrage un double qui eût été beaucoup plus pamphlétaire et il y avait matière. J'avoue que cela est tentant parce que c'est vrai que quand on voit écrit ce que vous dites, c'est assez lumineux. Alors, justement, au-delà de cette double pensée, de ce double discours au sens de George Orwell quand même, il faut aussi s'interroger sur la façon dont notamment le service public, et aussi des journaux comme Le Monde ou Libération, mais notamment le service public, d'une part, ne respectent pas le pluralisme, alors ils le respectent d'un point de vue politique, parce qu'ils en ont l'obligation légale, mais pour tous ceux que vous avez cités en début d'émission, les chercheurs, les scientifiques, les magistrats, les écrivains, les saltimbanques, etc., eh bien là, le pluralisme n'est pas là et loin s'en faut. Deuxièmement, que le service public cache à ses auditeurs téléspectateurs le pédigré de certains de ses intervenants, tout de même, mais qui, évidemment, point 3, n'hésite pas à préciser l'orientation politique vraie ou supposée, comme on dit dans le code pénal, par exemple, d'associations humanitaires, ou en tout cas de tous ceux qui ne sont pas de gauche. Donc quand on n'est pas de gauche, on dit que on a des accointances avec la droite ou avec l'extrême droite, mais quand on est de gauche, on ne dit pas les éventuelles accointances. On ne donne pas le pédigré complet des intervenants et bien évidemment, on ne respecte pas le pluralisme. Tout cela ne fait-il pas un peu beaucoup?
Oui, en effet. Alors, si vous voulez, sur la question du pluralisme, bon, vous faites allusion à.
Ben, je fais allusion à l'ensemble de ce que l'on voit et ce qu'on entend sur les ondes du service public.
Oui.
C'est quand même, enfin, je veux dire, tout le monde le constate. Et donc aujourd'hui, certains feignent de s'étonner qu'il y ait des réactions, qu'il y ait des commissions d'enquête, etc. Mais c'est quand même la moindre des choses. Il s'agit de radio d'État avec l'argent des Français. Et parallèlement, lorsque vous avez d'autres antennes. Alors, je ne parle pas de Radio Courtoisie, parce que Radio Courtoisie n'est pas tenue au pluralisme, en tout cas politique, pour une raison très simple, c'est que c'est la radio de toutes les droites en matière politique et de tous les talents en matière culturelle. Et moi, je peux vous dire que j'ai invité des gens sans jamais me préoccuper de son orientation politique, s'il avait quelque chose à dire hors de la politique. En revanche, en ce qui concernait la politique, j'appliquais les statuts de Radio Courtoisie tels que d'abord le CSA et ensuite l'ARCOM nous les a définis et qui donc s'imposent à nous. Mais comme par exemple quand on a une chaîne comme CNews qui elle respecte le pluralisme, elle est attaquée parce que justement elle respecte ce pluralisme alors que d'autres voudraient qu'elle ne le respecte à point.
Oui, non, je reprends, si vous voulez, ce à quoi vous avez fait allusion, hein, sur un certain nombre de procédés, si vous voulez, qui sont effectivement contestables. Je pense, bon, par exemple, un jour à un journal télévisé, c'était il y a 5 ou 6 ans, sur France 2, où il était question de la disparition en Irak de 4 salariés de l'ONG Chrétien d'Orient. Il y avait 3 Français et 1 Irakien. Et alors, le reportage s'achevait avec ces mots « L'ONG se présente comme apolitique, mais elle est considérée en France comme proche de la droite conservatrice et de l'extrême droite. Bon. » Alors, devant un fait pareil, enfin, on se demande quand même quel est l'intérêt de cette remarque et quel est son objectif. Hein. Si l'ONG en question avait été considérée comme proche de la gauche progressiste ou de l'extrême gauche, est-ce qu'on nous en aurait informé, hein? Et on se demandait aussi, on peut se demander aussi s'il existe des ONG proches de la gauche et de l'extrême gauche.
Non, sûrement pas.
Ils sont des chrétiens en Orient. Bon, et s'il n'y en a pas, mais on pourrait peut-être se demander pourquoi. Alors, sur l'autre point, oui, il y a un procédé dont vous parlez que j'ai eu l'occasion de relevé à plusieurs reprises. Par exemple, un jour, à la matinale de France Culture, l'animateur reçoit une économiste, une certaine Nathalie Coutinet, qu'il présente aux auditeurs comme une enseignante chercheuse en économie. Mais il omet de préciser qu'elle est membre des économistes atterrés. Bon. Ou bien, quelques mois plus tard, il reçoit toujours à la matinale de France Culture Didier Lesky. Alors Didier Lesky, il le présente comme le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, organisme dont il précise qu'il est placé sous la tutelle du ministre de l'Intérieur. Et puis son interlocuteur, un certain Puy Grenier, qu'il présente comme chercheur à Sciences Po. Point. Il ne précise pas dans ce cas que ce chercheur a été le secrétaire de la section de l'Union des étudiants communistes à Sciences Po, qu'il est membre du PCF, qu'il a été coordinateur fédéral de la jeunesse communiste dans les Hauts-de-Seine.
Un détail.
Alors, c'est un détail. Donc, les auditeurs sont informés de la manière suivante. Le débat va opposer un fonctionnaire qui est soumis à l'autorité de Gérard Darmanin à un pur savant, un chercheur, hein, manifestement pénétré de la neutralité axiologique chère à Max Weber. Bon, ça c'est un de ces procédés. Alors, il y en a un autre, c'est celui qui consiste à laisser l'invité, lorsqu'il est dans le bon camp, si vous voulez, à le laisser proférer des contre-vérités énormes sans le reprendre. Alors, j'ai en souvenir, si vous voulez, cette matinale de France Culture, hein, ça c'était en 2019, où était invité le cinéaste Ladjoli, hein, le réalisateur des Misérables. Et alors, ce cinéaste raconte que c'est grâce à une de ses vidéos, hein, qu'une vidéo filmant une bavure policière, c'est grâce à une de ses vidéos que l'IGPN, avait pour la première fois en France suspendu des policiers. Il a fallu attendre cette vidéo pour qu'un policier soit suspendu par l'IGPN. Alors, l'IGPN, rappelons que c'est une institution qui a été créée, hein, l'Inspection Générale des Services de Police, qui qui a été créée au XIXe siècle, en 1854. Elle s'appelait alors IGS. Elle est devenue IGPN.
Oui, l'Inspection générale des services, c'était le terme autrefois.
Voilà. C'est devenu Inspection générale de la police nationale en 86 à la faveur d'une fusion des services. Et donc, cette institution n'aurait sanctionné aucune bavure policière pendant 150 ans, jusqu'à la Joly. Bon, vous voyez, alors que l'on puisse proférer une telle énormité sur une radio de service public sans que l'animateur de l'émission ne formule la moindre observation, ça nous donne quand même une idée du niveau auquel nous sommes parvenus.
Alors, vous avez raison.
Je vous donne un exemple beaucoup plus récent, là, ça remonte à quelques jours. Il y a quelques jours, à la matinale de France Culture, il y a quelques jours ou quelques semaines, je ne sais plus, l'animateur reçoit Judith Butler. Bon. Il lui rappelle les propos qu'elle avait tenus sur le 7 octobre, en disant que c'est que le soulèvement, ce qu'elle appelle le soulèvement, le massacre, le pogrom, comme vous voudrez, c'est un soulèvement et que ce soulèvement était un acte de résistance. Alors, Judith Butler lui oppose un démenti. Non, elle n'a jamais dit que le soulèvement du 7 octobre était un acte de résistance. Elle a dit qu'elle pouvait comprendre que le Hamas se considère comme un mouvement de résistance. Bon. L'animateur de l'émission lui en donne acte. Alors moi, aussitôt, j'envoie sur le site de l'émission un lien vers une vidéo où on voit et où on entend Judith Butler dire clairement ce qu'elle vient de prétendre n'avoir jamais dit. Le soulèvement du 7 octobre était un acte de résistance armée. Bon. Mais cela, bien évidemment, les auditeurs de France Culture ne le sauront pas.
Ils ne le sauront jamais. Mais
le mensonge non démenti.
Permettez-moi, André Perrin, permettez-moi de me faire l'avocat du diable.
Et je vous en prie.
Pas trop longtemps, je vous rassure et je rassure les auditeurs de Radio Courtoisie. Que quelqu'un raconte n'importe quoi, à gauche comme à droite, surtout dans cette posture qui est plus celle du politique que du savant, pour revenir à ce que l'on disait, j'ai envie de dire c'est évidemment dommageable, mais j'allais dire, et c'est peut-être mon bon fond qui me permet cela, je veux dire l'erreur est humaine. Moi, ce qui m'importe, parce que derrière, je pars du présupposé, parce que raisonnons en philosophe, il faut mettre des degrés dans l'inacceptable. Il faut mettre des degrés. Moi, je pars du principe que ces personnes, elles ont peut-être dit leurs énormités de bonne foi. La culture, malheureusement, et c'est comme l'intelligence, c'est pas la chose du monde la plus partagée. Et il semblerait que dans les invités du service public, bref. Tout le monde ne peut pas écouter tout le temps Radio Courtoisie et André Perrin. Bref, donc là, il y a une faute, il y a une erreur, mais je vais partir du principe qu'elle était involontaire. Par contre, lorsque l'on a, et je me redis et je me répète, un non-respect du pluralisme lorsque l'on prépare l'émission sur le service public, donc perseverare diabolicum, que l'on cache aux auditeurs la fonction politique de celui qui est perçu comme un savant alors que c'est un militant, et que enfin, eh bien, on essaye de dénigrer en précisant un certain nombre d'informations dont on se doute bien qu'elle va être mal perçue par le public uniquement vis-à-vis de certains interlocuteurs en fonction d'une pure grille politique, c'est une forfaiture. Encore une fois, c'est une différence de degré et de nature. Bon, on s'est trompé sur l'IGPN, soit. Je ne sonde pas les reins et les cœurs. On va dire que ça a été fait de bonne foi. Là, on ne peut pas dire que c'est de bonne foi. C'est intolérable. C'est scandaleux.
Et non, je ne vois pas qu'on puisse faire cette différence. Parce que là, ils pourraient plaider en disant bah oui, qu'ils n'ont pas pensé non plus, ils ont oublié de bonne foi de signaler l'engagement politique.
Bon, pourquoi mais pas tout le temps, André Perrin, pas tout le temps.
Non, mais si vous voulez, moi je ne sonde pas non plus les reins et les cœurs. Moi, je ne prononce jamais sur des intentions. Moi, j'écoute.
Exactement, les actes.
J'analyse les discours, je rends compte de ce qui a été dit. Et s'il y a des choses qui sont fausses, eh bien, je le fais remarquer. Alors ensuite, on peut toujours supposer la bonne foi, la mauvaise foi. Bon, ça n'est pas tellement, ce n'est pas le problème que je me pose. Bon. Alors, sur le pluralisme, oui, bien sûr, et puis il y a, si vous voulez, je crois que si on veut parler du pluralisme sur le service public, je pense que le plus simple, c'est de se référer à ce qu'en disent les intéressés eux-mêmes, hein, c'est-à-dire ceux qui y travaillent. Bon, parce que sinon, on va vous dire, ah oui, mais ce sont des gens de droite qui se plaignent d'un manque de pluralisme, mais ils sont partiaux, etc. Alors, regardons ce que disent du service public des gens qui y travaillent. Je rappelle quelques faits. En 2010, vous aviez un humoriste qui s'appelait Stéphane Guillon et qui a été licencié de France Inter à la suite d'une série de provocations grossières sur lesquelles il n'est pas utile de revenir. Il a été licencié et il concluait sa dernière chronique en disant ceci: France Inter est une radio de gauche qui se comporte comme la pire entreprise de droite. Déclaration applaudie par toute l'équipe de la matinale, hein, au premier rang de laquelle se trouvait déjà Nicolas Demorand, hein, qui, en sa qualité de futur directeur de Libération, était bien placé pour savoir à quoi ressemble un média de gauche. Bon. Vous savez peut-être aussi qu'il y a eu un des anciens directeurs de la station France Inter, Patrice Bertin, à qui on doit la déclaration suivante, je la cite: il a été décidé que France Inter devait devenir la radio des intellos de gauche, puisque Europe 1 est à droite et RTL une radio populaire.
Bon. Pas de problème, mais pas avec mon argent.
Voilà, on va y venir. Troisième chose, vous vous souvenez peut-être qu'un des éditorialistes de France Inter, c'était en 2012, en avril 2012, il y avait eu un sondage réalisé par l'IFOP selon lequel 72% des auditeurs de France Inter étaient de gauche. Eh bien, cet éditorialiste en tirait argument pour dire ben, il est tout à fait normal que les opinions des auditeurs trouvent leur reflet dans la ligne éditoriale de la station. Donc, dans ces trois cas, si vous voulez, ce sont des journalistes ou chroniqueurs de gauche qui travaillent sur France Inter et qui nous disent tranquillement que oui, c'est une radio de gauche et que c'est tout à fait normal qu'elle le soit. Alors, évidemment, bien sûr, ce qui leur échappe, c'est que France Inter n'est pas financée par les seuls contribuables de gauche, hein, mais par tous les citoyens contribuables français, hein, ce qui, bien sûr, n'est pas le cas d'Europe 1, ni de RTL, pas plus d'ailleurs.
Ils le savent très bien, André Perrin. Ils le savent très bien, ils sont simplement d'une malhonnêteté insigne.
Et alors, si vous voulez des exemples plus récents, si vous voulez, hein, sur l'orientation partisane des chaînes publiques, et qui ne fait pas de doute pour ceux qui y travaillent, souvenez-vous aussi du séisme qui a été provoqué dans cette station en 2021, parce que on a annoncé que des personnalités de droite allaient pouvoir s'exprimer sur France Inter. Il a été décidé, c'était au mois de juillet.
C'est un 1er avril, sans doute.
Non, c'était un 4 juillet, très précisément, le 4 juillet 2021. Et donc, il a été décidé qu'à partir de septembre, à partir de la rentrée 2021, il y aurait une rubrique intégrée à la matinale de France Inter, une rubrique intitulée « En toute subjectivité », qui donnerait la parole à raison de 2 minutes 30 secondes, 5 jours par semaine, à 5 personnalités. Alors, pas toutes de droite, non, mais quand même, pas toutes de droite, puisqu'il y avait Cécile Duflot et Anne-Cécile Malfaire au début. Mais 3 personnalités de droite sur 5 qui auraient droit 3 fois par semaine à 2 minutes 30 sur France Inter. Est-ce qu'ils pourraient parler librement? Oui et non. Bon, parce que la directrice de l'information avait dit, attendez, ils ne feront pas d'édito, ils se livrent à un exercice de réflexion sur des sujets de société au cours d'un échange avec Nicolas Demorand. Donc, il y aurait quand même une personnalité sûre, hein, l'ancien directeur de Libération, qui serait aux manettes et qui pourrait corriger les idées de droite qui risqueraient d'être exprimées dans le cadre de cette rubrique.
Ça a été dit comme ça, mot à mot?
Ça a été dit exactement comme cela.
Vous ouvrez les guillemets, là.
Alors, si vous voulez que j'ouvre les guillemets, hein, ce ne sont pas des éditorialistes, ils ne feront pas d'édito, ils se livrent à un exercice de réflexion sur des sujets de société au cours d'un échange avec Nicolas Demorand. Bon. La rubrique, d'ailleurs, s'appelle « En toute subjectivité », tout le reste, c'est l'information objective et qui, elle, continue d'être assurée par des journalistes qui, eux, ne sont pas des chroniqueurs politiquement marqués. Hein, comme Nicolas Demorand lui-même, parce que lorsque Nicolas Demorand est revenu à France Inter après 3 années qui ont été consacrées à diriger Libération, journal qui se définit lui-même comme la maison commune de toutes les gauches, il n'y a pas eu de protestation de la rédaction en disant il est politiquement marqué. Donc vous voyez, lorsqu'on dirige le Point ou Marianne, puisque les personnalités de droite, supposées de droite, il y avait Natacha Polony, je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait de droite, mais enfin…
Bon, non, moi Etienne non plus, Gernel, et elle non plus d'ailleurs.
Voilà. Bon, enfin, il y avait Alexandre Devecchio, il y avait Étienne Gernel, bon. Donc lorsqu'on dirige le Point ou Marianne, on est politiquement marqué à droite. Mais quand on dirige Libération, qui se définit lui-même comme le journal de toutes les gauches, on n'est pas marqué politiquement à gauche. Hein, on est un journaliste normal, tout simplement, c'est-à-dire objectif. Hein, et on diffuse des informations et pas des opinions. Hein, voilà. Alors, voilà ce qu'il en est. Alors, si vous voulez, sur France Culture, bon, j'en parle davantage de France Inter parce que je l'écoute davantage, si vous voulez. Hein, vous aviez jusqu'à une date récente 2 émissions qu'on peut considérer comme pluralistes. Hein, il y avait celle, il y a Réplique d'Alain Finkielkraut et il y avait celle de Marc Weizmann qui s'appelait Signe des temps. Eh bien, Signe des temps a été supprimé. Il ne reste plus que Réplique et l'ancienne directrice de France Culture, Sandrine Trainer, hein, à propos de l'émission Réplique, a déclaré ceci. À part quand il fait une émission sur la mort de la grand-mère et Proust, il n'arrive jamais que je n'ai pas des réactions extrêmement hostiles. Bon, hein, ça, voilà.
Mais alors, justement, je rappelle à nos auditeurs qui sont à l'écoute de Radio Courtoisie que je reçois en direct André Perrin, philosophe et écrivain, autour de son dernier ouvrage, Paradoxe de la pensée progressiste, avec un avant-propos de Jean-Claude Michéa, aux éditions L'Artilleur, un livre vraiment passionnant et finalement drôle, parce que, évidemment, lorsque l'on dénonce cette suffisance de ces médias et de cette gauche, c'est forcément comique, parfois au plus haut degré. Je voulais revenir aussi sur le fait que, justement, on parlait de choses drôles. Vous aviez notamment, au travers d'une de vos chroniques, rappelé un article de Libération où il commençait vaillamment en utilisant l'écriture inclusive. Et puis, à la fin de l'article, finalement, c'était peut-être un petit peu fatigant. Et surtout, il y avait presque une sorte de psychanalyse en réel, puisque l'écriture inclusive était utilisée pour certaines personnes et dans certains cas, et pas pour d'autres, et c'était tout à fait savoureux. Justement, la question qu'il faut se poser, puisque nous allons bientôt arriver au terme de l'émission, c'est comment faire pour rendre un débat d'idées possible et surtout pour sortir de cette situation qui nous déshonore en tant que peuple soi-disant démocratique. Et déjà, je crois qu'il faudrait poser une question parce que une fois de plus, la réalité dépasse la fiction. Et dans OSS 117, vous savez, ce film humoristique, eh bien, l'agence secrète israélienne trouve que la France du général de Gaulle n'est pas très démocratique puisqu'il y a un général à sa tête avec une radio d'État. Et donc, la question qui se pose quand même, est-ce qu'une radio et une télévision d'État sont nécessaires dans une société démocratique? Pour ma part, après réflexion, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire, parce que même si l'on mettait des garde-fous qui diraient qu'il ne peut pas y avoir de commentaires politiques, que plein de choses, eh bien ça finirait toujours par être un outil utilisé avec l'argent des autres au service d'une coterie. Et si demain France Inter était éhontément de droite ou d'extrême droite, eh bien je serais content individuellement, mais je serais triste pour mon pays, parce que ce n'est pas le rôle de l'argent public que de financer des opinions partisanes. Qu'en pensez-vous, André Perrin ?
Bon, alors là, si vous voulez, moi je pense que une radio d'État, une télévision d'État sont nécessaires dans une société démocratique. Je pense que oui, pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est parce que les seules sociétés démocratiques qui existent au monde sont des sociétés libérales. Hein, autrement dit, parce que le libéralisme politique n'existe pas sans le libéralisme économique. Or, le libéralisme économique a bien évidemment des vertus dans son ordre propre, si vous voulez, mais dans la mesure où il est, pour le dire dans le langage de Marcel Mauss, un fait social total, eh bien, il diffuse inévitablement sa logique, qui est celle du profit, qui est celle de l'intérêt, qui est celle de la marchandisation, dans toutes les strates et dans toutes les sphères de la société. Et ça, bien, ça a des effets délétères dans l'ordre de la culture comme dans l'ordre de l'éducation. Et donc, si vous voulez, parce que la logique du profit, c'est celle de l'audimat, et c'est donc celle de la surenchère démagogique pour flatter les goûts supposés de ceux qui sont des clients. Et donc, vous avez un risque du nivellement par le bas et de la vulgarité. Donc, si vous voulez, la radio publique a bien des défauts. Je ne manque pas, vous l'avez remarqué, d'être sévère à son égard pour son manque de pluralisme et pour son sectarisme idéologique. Mais elle a quand même un grand avantage. D'abord, elle s'écoute sans interruption publicitaire. Et puis, elle comporte, il faut quand même le dire, des émissions qui sont de grande qualité. Et je ne suis pas sûr que des moyens d'information qui seraient tous intégralement soumis à la dictature du marché pourraient assurer des émissions de cette qualité. Hein, c'est pour ça que je pense qu'il faut la conserver, certes, en la corrigeant de ses défauts, mais pas en la supprimant.
Alors André Perrin, c'est tout à fait passionnant ce que vous nous dites, et je comprends bien que d'une certaine façon, nous avons deux écueils à éviter. Celui du profit qui entraînerait une démagogie et un nivellement par le bas, et celui d'une mainmise, d'une coterie, quelle qu'elle soit, sur l'information publique. Je voudrais quand même, parce que là nous sommes au cœur du sujet, vous faire réfléchir et avoir votre avis, votre opinion sur l'aventure qu'a constitué, que constitue encore tous les jours Radio Courtoisie. Radio Courtoisie naît en 1987 sur un concept extrêmement simple. Déjà à l'époque, il y avait une tendance à un certain manque de pluralisme d'une part et d'autre part une tendance à gauche des médias. Et il y en avait beaucoup moins à l'époque de médias, donc avec beaucoup moins d'offres finalement sur le marché. Et donc il y a eu la création de Radio Courtoisie pour donner la parole à toutes les droites en matière politique et à tous les talents en matière culturelle. Et de fait, aujourd'hui, depuis 1987, sans aucune interruption, je suis moi-même patron d'émission depuis plus de 30 ans à Radio Courtoisie, nous avons des libres journaux qui durent entre 1h30 et 3h et où nous invitons des gens qui font profession de penser, d'écrire, de réfléchir, de composer, de créer, etc. Même si, bien évidemment, nous avons ce positionnement politique parfaitement clair, parfaitement transparent, qui, comme je l'ai dit, est dans notre statut, qui est notre raison d'être. Et Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Elle ne vit que grâce à ses auditeurs. Et nous avons plus de 20 000 donateurs, plus que beaucoup de partis politiques, qui sont capables de payer pour avoir une radio qui leur permet de découvrir et d'entendre ce qu'ils ne peuvent pas entendre ailleurs, et ceci sans publicité. Donc ça veut dire quand même que ce type de projet, qui est un petit peu un troisième type entre les deux que nous avons définis, la radio d'État Et les radios commerciales, c'est la radio associative qui ne vit que grâce à ses auditeurs et qui, d'une certaine façon, reflète forcément quelque chose du paysage radiophonique, politique, culturel, etc. français. Dit autrement, est-ce que ce ne serait pas plutôt ce type de modèle qu'il faudrait favoriser en exigeant qu'il y ait un tiers des médias, en tout cas des médias qui nécessitent une autorisation d'émettre, qui soient associatifs pour justement que la pluralité des opinions, pour autant qu'elles s'autofinancent, eh bien, soient respectées.
Et moi, si j'étais sûr que ce type de dispositif soit viable, c'est-à-dire que vous puissiez avoir avec ce système des audiences comparables à celles de France Inter, de France Culture, d'Europe 1, etc., pourquoi pas. Mais bon, moi, je ne suis pas du tout expert dans ce domaine, mais j'avoue que j'ai quelques doutes sur la faisabilité.
Alors, vous avez raison, mais en réalité, je vais vous donner, parce que j'avais prévu votre remarque, tout à fait légitime. Sachez qu'aujourd'hui, Radio Courtoisie ne diffuse officiellement sur les ondes que sur l'Ouest et sur la région parisienne, même si maintenant, avec Internet, on peut l'écouter partout dans le monde. Je crois que malheureusement, il faut se rendre à l'évidence. Je vais vous le dire très, très, très brutalement et très directement. Si France Inter avait véritablement le niveau de diversité culturelle, je ne parle pas de politique, mais uniquement culturelle de Radio Courtoisie, elle aurait l'auditoire de Radio Courtoisie. Malheureusement. C'est une réalité, je pense, sociologique. Mais écoutez, en tout cas, c'est une discussion que nous avons eue qui est absolument passionnante. Peut-être il nous reste 3-4 minutes, j'aimerais vous interroger sur, justement, quelles évolutions pour les idées, les histoires des idées. Est-ce que vous pensez que, finalement, le paysage politique, intellectuel, culturel est en train de s'ouvrir ou plutôt qu'il est en train de se refermer? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il est en train de se refermer et que d'autres qui voulaient faire croire que les réactionnaires ou néo-réactionnaires avaient gagné le combat des idées étaient plutôt dans une position stratégique pour justement les combattre mieux.
Oui, écoutez, alors c'est assez difficile de faire des pronostics hein, sur ce qui va se passer. Il y a eu un certain nombre d'évolutions. S'agissant de la pensée, disons progressiste, hein, qui fait un petit peu l'objet de mon livre. Bon, j'ai montré qu'elle avait évolué considérablement. Et pas forcément dans un sens favorable depuis, disons, les années de l'après-guerre. Bon, puisque avant-guerre, hein, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le centre intellectuel était occupé de manière très massive par la droite, hein, ce qu'on appelle la droite ou l'extrême droite. Il faut se souvenir de Maurras et de l'aura considérable du prestige et de l'importance qu'a eu la pensée de Maurras dans toute la première moitié du XXe siècle. Bon, à partir de la Seconde Guerre mondiale, ça a été un petit peu l'inverse, et vous avez eu un monde intellectuel qui a été dominé par le marxisme. Et encore dans les années 60, si vous regardez comment les choses se passaient dans les universités, dans les lycées, à l'École normale supérieure, hein, où Althusser était une des figures emblématiques, hein, vous aviez une pensée qui était dominée par le marxisme. Bon, là-dessus, vous avez eu mai 68, vous avez eu le marxisme a commencé à subir, si vous voulez, des coups un petit peu sévères parce que la révolution entre guillemets, hein, de 68.
Il vous reste une minute pour conclure.
Est beaucoup plus libertaire, oui, beaucoup plus libertaire que marxiste. Bon. Là-dessus, vous avez eu Solzhenitsyn, vous avez eu les nouveaux philosophes, etc. Bon, et la pensée de gauche s'est déprise hein, du marxisme. Elle s'est tournée alors vers des idéologies dont le wokisme est aujourd'hui emblématique, ce qui n'est pas forcément un progrès. Voilà, enfin, je ne sais pas si je peux encore continuer.
Alors, juste pendant 30 secondes.
Oui. Bon, alors, actuellement, si vous voulez, ce qui reste vrai, c'est que le monde ce que j'appelle, si vous voulez, le tout petit monde de l'intelligentsia. Hein, parce que vous avez un divorce, si vous voulez, entre ce que pense l'ensemble du peuple et puis ce que pense le petit monde des intellectuels, des universitaires, des journalistes, des médias, des gens de culture, etc. Hein, vous avez un petit monde qui est très orienté encore gauche, bon, et qui dispose effectivement d'un pouvoir normatif très important qui n'est pas en lien avec son importance numérique. Oui.
Oui, nous arrivons malheureusement au terme de l'émission. André Perrin, merci beaucoup pour cet échange tout à fait passionnant. Je voulais rappeler donc aux auditeurs votre ouvrage. André Perrin, Paradoxe de la pensée progressiste, avec un avant-propos tout à fait à propos justement de Jean-Claude Michéa, aux éditions L'Artilleur. J'espère que les auditeurs ont apprécié cette émission. Merci à la technique et que chacun décrypte, bien évidemment, pour lui et pour les autres, les aberrations d'une certaine pensée dominante, dont souvent d'ailleurs le ridicule apparaît assez rapidement. Et je crois également que nous pouvons que remercier Radio Courtoisie et tous ceux qui la font vivre, et vous aussi, chers auditeurs, pour avoir cette, je dirais, îlot de liberté, dénué de toute considération, comment dire, rattachée à l'État ou à quelconque groupe de pression économique. C'est notre honneur. Et j'espère que nous pourrons continuer de longues années à inviter des gens aussi passionnants que vous, André Perrin. Amis auditeurs, à dans 4 semaines.
Vous venez d'entendre le libre journal d'Hugues Sérapion, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 28 mars 2026, de 12h à 13h30 et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir à un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.